Radio Primitive et Galaxy Pop présentent Jurassic Park, le format court qui t'en dit long sur la préhistoire de tes artistes préférés.
Made in USA.
Oh, that's the oldest question of all time. I do a song now called It's the Little Things, and it talks about how you can burn my house, you can cut my hair, you can poison my cat, but if you ever ask me how I got my name, it's the oldest question in the world.
Il serait la réincarnation d'une sorcière brûlée au XVIIIe siècle. Il aurait écrasé des poussins sur scène. Il s'est fait griller sur une chaise électrique, pendre, puis guillotiner devant un public abasourdi à plusieurs reprises, mais renaît toujours de ses cendres.
Je vais bien sûr parler d'Alice Cooper. Tout comme son homologue des années 90, Marilyn Manson, Alice Cooper ne s'appelle pas Alice Cooper mais Vincent Damon Furnier. T'as vu, c'est vachement moins sexy d'un coup. Et vous allez pouvoir constater par vous-même que les coïncidences entre les deux figures de proue de la scène dite gothique ne se limitent pas aux mises en scène macabres et aux guitares électriques. Loin de moi l'idée de faire un bis de mon épisode sur Brian Warner, mais certaines similitudes sont pour le moins troublantes. Pour celles et ceux qui l'ignorent, avant d'être un projet solo, Alice Cooper fut un temps, durant les années 70, un groupe, un peu comme Marilyn Manson and the Spooky Kids, à la différence qu'après le passage en solo, à la ville, l'un est resté Brian Warner, quand l'autre est officiellement devenu Alice Cooper sur son permis de conduire et ses déclarations d'impôts. Tout comme Warner, bien qu'il soit né à Détroit en 1948, Vincent Furnier n'est pas vraiment américain, son père étant d'origine française, Furnier en aurait pu s'en douter, et sa mère, McCart. Je vous laisse 3 secondes pour trouver.
Irlandaise.
Bravo. Tout comme Warner, la santé du petit Vincent Furnier est un gros sujet puisqu'il sera hospitalisé d'urgence à l'âge de 13 ans pour une péritonite aiguë, opération qui le clouera au lit une année et lui laissera une séquelle au niveau du dos. Et ça explique par ailleurs certains des thèmes récurrents dans ses textes. Tout comme Warner, Furnier aime écrire et dessiner et fera d'ailleurs ses premières armes dans la gazette de son lycée, dans lequel il étudie l'art contemporain. Tout comme Warner, le petit Vincent est fan de récits horrifiques et des films de genre. Tout comme Marilyn Manson, Alice Cooper est partie d'une blague. Mais là où Brian Warner est plus que partie prenante dans la direction artistique et le succès de Marilyn Manson, Vincent Furnier est assez étranger au démarrage du groupe, que l'on doit davantage à des opportunités et rencontres dont il a su tirer parti. Il réécrira l'histoire à sa guise, comme beaucoup d'artistes qui deviennent des légendes de leur vivant. Et pourtant, globalement, ça s'est passé comme suit. En 1963, Dennis Dunaway, étudiant de la Cortez High School de Phoenix, propose à ses potes Phil Wheeler, John Spear, Glenn Buxton et Vincent Furnier de monter un groupe après avoir assisté à une prestation live de Dwayne Eddy and the Rebels qui lui a retourné le cerveau. Peu séduit et motivé par l'offre, elle tombe aux oubliettes jusqu'à l'automne de l'année suivante. Vincent Furnier se voit confier l'organisation du Letterman's Club Talent Show, concours de talent organisé par son lycée. Le hic, c'est que personne n'a de talent particulier pour quoi que ce soit, et c'est pas moi qui le dis, c'est Vincent. Mon plus gros problème, c'est que personne n'avait de talent, personne ne sait même bercer d'illusions. J'ai mis des panneaux partout dans l'école et tout ce que j'ai trouvé, c'est un étudiant de première année qui voulait faire des tours de magie. Un jour, j'ai convoqué une réunion dans le vestiaire avant une rencontre d'athlétisme et j'ai demandé des suggestions. Et c'est donc en juste au corps dans les vestiaires que tout a commencé. Mais on ne s'invente pas musicien comme ça, même si on est super bon en course de relais par ailleurs. Il va falloir ruser et le stratagème sera le suivant, parodier des chansons des Beatles, simple, court et efficace, mais tellement casse-gueule en vrai. The Earwigs, les pinces-oreilles, premier nom de baptême pour ce groupe qui n'en est pas encore vraiment un, se produit au fameux concours, instrument à la main, pas un seul de branché, évidemment, puisqu'ils n'y connaissent rien, vociférant leur parodie sur des instrumentaux. Inutile de vous dire qu'ils arrivent derniers au concours. Ça aurait pu s'arrêter là, si le plaisir, coupable là pour le coup, ne s'était pas fait une place dans le cerveau de nos athlètes. Le second concours du lycée approchant à grands pas, il devient urgent d'apprendre à jouer pour ne pas finir sur le banc de touche. Pour Glenn Buxton, la difficulté sera moindre, puisqu'il gratouille déjà un peu. Pour les membres restants, ils passeront par des cours de rattrapage. Le concert a lieu, les Earwigs réussissent leur coup, et ce bien au-delà de leurs espérances, puisque c'est grâce à ce tremplin que tout commence. Ils seront invités par leur lycée à jouer pendant la pause déjeuner. Je trouve ça super cool en vrai, je tiens juste à préciser qu'heureusement qu'à l'époque ils se décapitaient pas à la fin du show. Ah, on me dit dans l'oreillette que si, il y avait pourtant bien une guillotine sur scène. Ah, autant pour moi. Effectivement, lors du bal d'Halloween intitulé The Pit and the Pendulum Dance organisé par la Cortez High School, le groupe chargé de faire danser ses camarades ne va pas se contenter de faire de la musique. Ils sortent le grand jeu, toile d'araignée, cercueil, accoutrement dans le thème, et donc une guillotine fabriquée et prêtée par un de leurs proches.
Et sinon, t'as des passions dans la vie ?
Ouais, je bricole des guillotines dans mon garage le week-end.
Attention, ceci est un red flag. Fuyez.
Sous forme de bizutage mignonnet, Ils mettent une de leurs connaissances au défi de les manager. Nick Sataslo prouvera rapidement, le lendemain même, son talent d'entrepreneur en leur déroulant le programme. Une liste de quelques concerts et de Battle of the Groups, les fameuses, auxquelles il les a inscrits. C'est donc grâce à cet homme et un pari stupide que le groupe finit par roder son tour de chant là où on veut bien d'eux, et on veut bien d'eux, même à la télé. Ils seront invités dans le Wallace & Landmo Show sur KPHO en 1965. Il ne reste malheureusement rien de ce passage télé, si ce n'est deux photos, ce qui signifie donc que le passage télé est bien quelque part, mais où, et surtout, qui publie deux photos d'un passage télé en mode « Elles sont belles mes photos, mais je mettrai pas la vidéo !» Entre temps, le line-up a subi quelques changements. Vincent en lead et à l'harmonica, Denise Deneau à la basse, Glenn Buxton et John Tatum à la guitare et enfin John Spear à la batterie. Et je vous assure que pour parvenir à une telle clarté sur ce point, c'était pas piquer des hannetons. Les pinces-oreilles, les hannetons, les araignées. Courant 1965, ils font la connaissance de Jack Curtis, découvreur de talent et propriétaire des deux clubs les plus chébrants de Phoenix. Il leur assure un lieu sûr et des représentations tous les week-ends, dont les premières parties des Yardbirds et des Birds, à une condition, qu'ils changent de nom, prétextant que les pinces-oreilles ne sont pas très racoleurs. À la rentrée 65, les Heroics deviennent The Spiders. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que Jack Curtis aura un rôle clé dans l'aventure Alice Cooper à bien des niveaux. Encore une fois, ça part d'une blague, bon, un peu moins sérieuse celle-là, puisque pour la promo radio, Curtis invite l'auditeur à venir voir les Spiders et leur Spider Sanctum. Une belle promesse qui pousse les 5 jeunes garçons à faire chauffer leur méninge. C'est ainsi qu'ils peaufinent pour la première fois les prémices d'une identité visuelle qui consiste à fabriquer une toile d'araignée en corde à linge pour la scène et à se vêtir de noir. Mais Jack Curtis, propriétaire du label Mascotte, va mettre les bouchées doubles et permettre aux Spiders d'enregistrer et de sortir leur premier 45. Bien que le groupe ait commencé à composer dès sa rencontre avec Curtis, ce sont des reprises qu'on retrouve sur les deux faces du micro-sillon. Why Don't You Love Me, que vous venez d'entendre, est une cover d'un titre des Blackwells, et pour la B-side, c'est une cover des Rolling Stones de la cover de Marvin Gaye de Hitchhike. On ne connaît pas le chiffre exact de disques pressés, mais on sait que nombre d'entre eux, distribués gratuitement à l'entrée du VIP Club, ont fini en miettes ayant servi de frisbee lors des concerts.
C'est fatigant l'athlétisme.
C'est encore et toujours Curtis qui va aider les Spiders à décrocher une audition en tant que musicien d'accompagnement du spectacle itinérant Bye Bye Birdie lors de son passage à Phoenix au Star Theater, ce qui permettra aux musiciens d'entasser quelques liasses bien méritées. Malgré cette somme d'arguments plutôt convaincants, John Tatum prend la décision de quitter le groupe l'été 66 pour se consacrer à d'autres projets, et c'est Mike Bruce qui s'empare de la chaise libre de guitariste rythmique au sein des Spiders. Le groupe reprend les concerts avec des setlists de plus en plus centrés sur des compositions écrites par Vincent Furnier et composées par Denise Deneau, dont deux titres immortalisés sur un second single, Don't Blow Your Mind. My mind is in love because it's so nice. There ain't no crap to hang it on. Après une première tentative d'enregistrement peu convaincante au Copperstead Studio de Phoenix, le groupe choisit la voie de l'émancipation et enregistre ce second disque, dont vous venez d'entendre la B-side No Price Tag, au Santa Cruz Studio de Tucson, en Arizona. Il sort en septembre 66 sur le label du studio Santa Cruz, mais l'audace d'avoir pris la liberté d'enregistrer hors du cadre rassurant de Phoenix ne permet en rien aux musiciens de classer leur galette 5 étoiles sur TripAdvisor. La bonne nouvelle pour nous, c'est que la session du Copperstead Studio circule depuis plusieurs années et qu'on s'écoutera la démo de Don't Blow Your Mind en fin d'épisode. Fin 66, les Spiders un beau palmarès de première partie dont The Drifters, les Mamas and Papas, The Loving Spoonful et feront même une tournée californienne en première partie des Birds. Ils sont le groupe numéro 1 à Phoenix grâce à leur talent cumulé au savoir-faire de Jack Curtis. Ils commencent donc à ressentir le besoin de voir plus grand, plus loin pour...
Allez plus loin.
Et c'est lors d'un festival à l'Elysium Park à Los Angeles en mars 1967 qu'ils vont pour la première fois goûter à la liberté et certainement de trucs peu recommandables. Nous sommes à une année de mai 68, un vent de contestation et de liberté flotte dans l'air ambiant et certainement d'autres trucs peu recommandables qui pousseront nos Spiders à s'installer à Los Angeles pour expérimenter leur son et certainement d'autres trucs peu recommandables. Mais aussi parce que c'est là-bas que tout se passe, Los Angeles étant l'Eldorado pour ceux qui ont une idée, même complètement débile, et ont la ferme intention de pouvoir en vivre.
Doesn't anybody like to fuck anymore?
Lors de l'été 67, le groupe ouvre un nouveau chapitre de son existence et change de nom, le tout confirmé par un communiqué de presse. Les Spiders, qui ont récemment changé de nom pour devenir The Nez, ont joué ensemble pendant 3 ans, atteignant le top 40 du hard rock and roll et du rhythm and blues. Ils écrivent actuellement leurs propres chansons et tentent de créer un son original. C'est le seul groupe de Phoenix à avoir joué une majorité de compositions sur scène. The Nez sera en tournée avec The Who, The Young Rascals, McCoys et Ian Whitcomb durant le mois de juillet. Ils profitent de cette surexposition pour sortir un troisième single, le premier sous le nom The Nez, Lay Down and Die, Goodbye. Effectivement, on s'approche davantage du son d'Alice Cooper tel qu'on le connaît sur les premiers opus, ce qui n'a rien d'étonnant. Ce morceau sera réenregistré pour clôturer la tracklist du second album du groupe, Easy Action, en 70. Le 45 tours, sorti sur le label Very Record, sera tiré lui aussi à peu d'exemplaires, mais le titre bénéficiera cependant de quelques passages radio. The Nez tourne donc jusque fin 67, mais peine à marquer les esprits. Leur son ressemble à celui des Beatles, leur identité visuelle est encore trop indécise, on les qualifie de hippies, bref, leur prestation laisse une impression mitigée. Le 11 novembre, John Spear, le batteur, délaisse ses acolytes et rentre à Phoenix, cédant sa place à Neil Smith. En janvier 68, The Nez rentre au Bord Brothers Studio pour enregistrer leur premier long play. Mais un événement va retarder et modifier leur plan. En effet, un homonyme, The Nez de Todd Rundgren, est sur le point de sortir un premier album. The Nez change de peau une dernière fois, et là, nombre d'histoires et de théories entourent le choix qu'ils feront, celui de s'appeler Alice Cooper. La légende raconte que les membres du groupe ont contacté une médium qui leur a dit qu'ils incarnaient l'aura d'une sorcière brûlée au XVIIIe siècle. Une sorcière du nom d'Alice Cooper. Une autre raconte que Vincent Furnier aurait rêvé que le groupe était une entité surnaturelle, une entité du nom d'Alice Cooper. Vincent Furnier a raconté qu'il aurait emprunté ce nom à un personnage de la série télé Maybury RFD, une femme de ménage du nom d'Alice Cooper. Ce qui est clairement impossible d'un point de vue logique, puisque la première apparition de ce personnage à l'écran arrive dans le courant des années 70, soit une année après que The Nez ne devienne Alice Cooper, à moins que Vincent Furnier ne soit Madame Soleil. En réalité, ce nom a été sorti au hasard dans un genre de brainstorming et élu à l'unanimité parce qu'il avait une connotation rassurante, contrastant avec la musique agressive du groupe. Ce changement va également profiter grandement à leur image et pour deux raisons. La première, personne ne sait si Alice Cooper est le nom du groupe ou celui du chanteur. La seconde, s'il s'agit du nom du chanteur, un homme avec un nom de femme, ça crée un trouble. Et c'est ce trouble que Vincent Furnier va choisir d'exploiter. Là où The Nez incarnait plutôt un groupe de babas tendrement cool, Alice Cooper salit son image, incarnant progressivement The American Nightmare. Je portais la lingerie de ma copine et ses pantalons en cuir noir avec une paire de bottes de motard, le tout recouvert de faux sang. Nous avions un monde rempli de Peter Pan, mais pas un seul Capitaine Crochet. Et je me suis dit, ok, pourquoi je serais pas le vilain? Pourquoi ne pas devenir le Moriarty du rock'n'roll? Pourquoi ne pas devenir le Dark Vador du rock'n'roll? Et quand on met tout ça bout à bout, j'étais le candidat parfait pour ça. Je suis donc devenu le méchant du rock et je me suis plus amusé que n'importe qui.
Ouais, Alice, tu oublies tout de même de préciser que ce sont les membres du groupe de rock féminin GTO qui vous ont encouragé à porter des vêtements de femmes sur scène.
Courant 1968, un agent artistique du nom de Chet Gordon s'installe au Landmark Motor Hotel de Los Angeles pour des raisons professionnelles. Il l'ignore encore pour l'instant, mais sa première soirée dans cet hôtel va changer son destin et celui de nos 5 Phoenixois. Vers minuit, je suis monté sur le balcon. J'avais entendu une fille crier au bord de la piscine. Je me suis dépêché de descendre les escaliers. Devant moi, de vagues silhouettes s'agitaient au bord de la piscine. Pour une raison quelconque, mon cerveau a interprété la scène comme une agression et je suis allé les séparer. C'est à ce moment-là que la fille m'a donné un coup de poing dans la bouche.
We're just fucking mad,
a-t-elle dit.
Leave us alone, please.
Je me suis retiré précipitamment dans ma chambre, me sentant plus comme un crétin que comme un héros. Il se rendra compte le lendemain matin que la femme qui générait ses vociférations primitives la veille était Janis Joplin. Elle prend les choses avec le sourire et raconte la méprise de la veille à une assemblée constituée des Chambers Brothers, de Paul Rothschild d'Elektra Records et d'un certain Jimi Hendrix en maillot de bain, se prélassant sur une chaise longue, sans doute encore collante de la veille. Et c'est ce bon vieux Jimmy qui conseillera à Chef Gordon d'aller voir Alice Cooper jouer au Cheetah Club de LA. La prestation emballera Gordon au point qu'il leur proposera de les manager, et ça va les hyper de ouf. Gordon leur obtiendra le privilège d'être signé sur le label de Frank Zappa, Straight Records. Le premier long play d'Alice Cooper, Pretty's For You, sortira l'année suivante, soit en 1969. Il reste aujourd'hui un disque au son et à l'imagerie novatrice, bref, un incontournable à avoir dans sa discothèque. I Vous venez d'écouter l'épisode 5 de la saison 3 de Jurassic Park. Cet épisode est disponible en replay sur le site off de Radio Primitive et sur toutes les applis courantes de podcast. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser des commentaires, histoire de mettre
des paillettes dans ma vie.
Prenez soin de vous et à la prochaine.